C'est l'heure du lore des folks. Par ici, les fées passent se faire redorer la légende. La Dame Blanche est sans faux col. La brume se propage par fin corrigan. À l'ombre des pierres levées, venez entendre la chanson nouvelle des petits récits passés.
La dernière fois, on m'a raconté l'histoire d'un mégalithe. Appelons-le Gérald. Gérald vit le jour un beau matin du néolithique armoricain, après qu'on ait posé sa dalle sur son orthostate. Animé par la foi de ses créatrices, Gérald est un petit dolmen de type 2, pas bien grand mais tout à fait fonctionnel. Il est recouvert par un tumulus honnête qui abrite un clan d'une petite douzaine d'humains, non loin d'un fier menhir, Ferdinand de son nom, qui indique la présence d'un espace sacré. Gérald est une porte de pierre qui mène à une tombe collective. Gérald est un passage très important entre la vie et la mort, et il remplit son rôle consciencieusement. Les dépouilles qui passent par lui sont transportées avec soin vers leur monde invisible pour rejoindre leurs ancêtres. Et elles reposent en paix au même endroit, et c'est grâce à Gérald. Il sent le fumet de toutes ces petites chairs mortes qui pourrissent ensemble pour l'éternité. Il sent la chaleur des feux qu'on allume face à lui pour que les bêtes sauvages ne viennent pas les manger. Gérald soupire d'aise, car il est vénéré. Puis quelques mille ans plus tard, un druide s'abrite sous lui, effrayé par le tonnerre. Il se sent protégé par les grosses pierres solides de Gérald et reprend courage. Et c'est ici, sous Gérald, que le druide, devenu vieux, raconte à son apprenti le nom des déesses et des dieux, comment les respecter, comment les apaiser. Gérald écoute avec attention toutes ces nouvelles règles que les humains s'inventent pour contrôler leurs peurs. Ils gardent leurs secrets. Au pied de Gérald, on mâche des herbes, on a des visions prophétiques, on se fait des promesses, on présente le nouveau-né à la lune, on fait revenir le printemps après l'hiver en enfumant Gérald de parfums élaborés. On dépose sur lui des offrandes que les oiseaux et les biches viennent manger pendant la nuit. Ça le chatouille et il adore ça. Qu'importe que les humains viennent prendre les pierres de sa chambre mortuaire pour se construire leur maison à eux, réparer un muret ou un bout de route, Gérald chantonne doucement car il est célébré. Mais quelques mille ans plus tard, quand les humaines remplacent leurs druides par des curés, Gérald ne sent pas le vent tourner. Car si la mémoire se perd, les habitudes se gardent. Et il continue d'abord d'être aimé. Les anciens n'ayant pas cru bon d'écrire leurs croyances quelque part, celles-ci se transformèrent dans l'esprit des suivants. Et le dieu soleil d'avant devient alors un sympathique géant. Gargan, Gargan, quel grand tu as ! S'exclament en rigolant deux amants venus trouver un peu d'intimité auprès de lui. Ainsi, Gérald apprend par les conversations des jeunes gens qu'on dit que lui et son menhir sont des objets appartenant au géant Gargantua, qui jouait à lancer des palets lorsqu'il passait par là. Alors, même s'il ne comprend pas vraiment leurs blagues, il est bien content de les rendre heureux. Gérald leur sourit, car il est apprécié. Un beau soir de novembre, Ferdinand le menhir lui dit en langue des pierres
« Gérald !» Gérald ! Gérald ! Je ne peux plus bouger.
Allons, mais comment donc ?
Gérald, ces humains qui nous ont taillés, ne vois-tu pas qu'ils nous détestent ?
Allons, mais que dis-tu ? Hier encore, j'entendais des enfants raconter des histoires. Celle de François Rabelais, tu sais, il fait les livres.
Ah, quel vieux rêveur tu es ! Il est fini ce temps. Maintenant, ils ont pris peur, ils sont jaloux de nous, de notre âge, de notre taille.
Mais qu'est-ce que tu me chantes là ?
Le curé du village, il raconte à tout va que tu es un blasphème, une dangerosité, que tu servis de table au sacrifice païen et que ta dalle de pierre, de leur sang, est souillée.
Mais qu'est-ce donc que sort là ? Jamais je n'ai... D'où sortent-ils ces mensonges ?
Les ossements des ancêtres, à force de creuser, ils les auront trouvés. Maintenant, leur mort les choque, ils en sont terrifiés et ils se vengent sur nous.
Mais ça n'a aucun sens !
Dit Gérald affolé.
Ah, tu ne veux pas me croire ? Regarde donc la croix qu'ils ont mise sur ma tête.
Gérald n'aime pas bouger, mais il fait un effort. Il fait donc quelques pas en dehors de sa zone et voit sur son menhir, son beau pelvène dressé, une croix en métal sur son extrémité. Catastrophe ! Les menhirs, en plus d'être gardiens, sont aussi des antennes qui amplifient les ondes émises à travers les dolmens depuis les autres mondes. Cette croix métallique, ce lugubre instrument, brouille tous les signaux, brise les protections, empêche les échanges.
Que puis-je faire contre ça ?
Dit Gérald navré.
Parle avec nos collègues, témoigne de mon supplice. Va-t'en tout raconter pendant l'intersolstice.
Pas si facile à faire. Sa ligne tellurique étant interrompue, Gérald doit marcher jusqu'au prochain courant d'ondes terrestres magnétiques pour se transporter jusqu'au grand rendez-vous. Là-bas, Gérald apprend l'étendue du désastre. Partout dans la région, les pierres sont profanées. Des menhirs retaillés en forme de calvaire, des menhirs déplacés, des menhirs détruits. Partout, on les consacre selon de nouveaux rites, mais des rites punitifs, des rites qui les méprisent, des gestes de rejet, de peur et d'ignorance. Gérald pleure alors de petites larmes de pierre sur cette injustice dont elles sont tous victimes. Les dolmens s'organisent, se soutiennent et se parlent, mais Gérald est aigri. Il ne voit pas vraiment à quoi tout cela rime. Car il y a 50 ans, Ferdinand prit la foudre par une belle nuit d'été à cause de la croix qu'on avait mise sur lui. Gérald sentit alors quelque chose se briser. Il ne va plus pleurer avec ses adelphes sur les humains cruels. Il pense que c'est sa faute qu'il l'a bien méritée. Il a honte de dire à ses voisins de donge qu'il est trop fatigué, qu'il ne veut plus parler, qu'il ne veut pas penser. Gérald s'endort souvent, d'un sommeil sans rêve. Il a juste émergé lorsqu'un tout petit veau s'est approché de lui pour venir brouter. Il apprend maintenant qu'à défaut d'être aimé, ou qu'au lieu d'être craint, on le tolère tout juste, car il est bien trop lourd pour être déplacé et rendre cette terre utile à quelques productions. Il garde donc des vaches placides et résignées qui, de leur meuglement, le bercent doucement. Et Gérald se rendort, se disant qu'après tout, ce n'est pas si mauvais. Un petit siècle après, un certain scientifique vient alors l'ausculter. Un vicomte à moustache, plein de zèle et d'entrain. Et pour la première fois, on s'adresse à Gérald.
Eh bien, qu'est-il donc arrivé ?
Gérald ne répond rien, il préfère se méfier. Mais c'est vrai qu'il se trouve en fort mauvaise posture. La dalle a même la terre, il lui manque un côté. Il n'a pas fière allure. C'est qu'une pierre de trop volée à sa structure, plus une lourde pluie sous ses fondations. Gérald avait glissé. Puis des hommes trapus au front couvert de suie étaient venus construire un long chemin ferré. Il n'y a plus de vaches, il n'y a plus que des trains remplis d'humains. Qui file, indifférent. Alors que lui, bien sûr, dans une telle position, et depuis fort longtemps, plus qu'il ne veut l'admettre, il ne peut plus bouger.
N'aie pas peur, mon petit, on va t'analyser. Je suis archéologue. Je vais te recenser, et puis te mesurer. Et puis je vais creuser un peu dessous ta terre pour trouver les trésors que nos ancêtres celtes auraient pu nous laisser.
Gérald voit le petit homme s'affairer à ses pieds. Demeure interdit. Cet être vigoureux, plein de bonnes intentions, se trompe tout autant que ses prédécesseurs, tout obsédé qu'il est avec ses théories. Vraiment, cette habitude de chercher des trésors au pied des pierres levées, c'est d'une vulgarité. Il a suffi qu'une fois, un jour, un pauvre type du genre ait trouvé, par hasard, un bracelet d'argent ou un collier doré, et des décennies plus tard, ils sont tous à creuser comme des taupes perdues, comme David nuisible.
Gérald laisse donc ce pitre fourrager tout son socle, les yeux rivés au ciel pour ne pas y penser. On le photographie et on le numérote. Gérald n'est pas dupe. Rien ne changera plus, les humaines vont et viennent, comme elles l'ont toujours fait. Gérald se rendort. Il n'est pas concerné. Un siècle encore s'écoule sans que Gérald bronche. Jusqu'à un beau matin du mois de février, il fait froid, il fait gris. On a le nez gelé, on sifflote, on
complaisante. On hurle aussi des ordres. On répond en gueulant. Et le bruit de machines nouvelles qui s'ajoutent au bruit sourd du train. Qui vient le déranger? Et c'est en un clin d'œil, c'est-à-dire des années, que les choses se construisent. Barricades et travaux, la terre est retournée, tuyaux tranchés, pylônes, tout est soudain relié, des câbles, des cuves, des murs, en béton et en tôle, en plastique, en acier. Quel boucan ! Pense Gérald. Est-ce bientôt terminé ? Ah, pauvre vieux dolmen ! Si seulement il savait. Gérald ne comprend pas, il est trop dépassé. Il est resté longtemps à fuir dans le sommeil. Rien ne s'est arrangé. Les humains sont passés à une nouvelle ère. Fini les rituels, fini Gargantua, fini aussi les vaches, les trains n'ont pas suffi, et elle fabrique à présent une raffinerie. Gérald est pris au piège d'une vaste contrée où règne en puissance cette nouvelle industrie. Un type au front carré tourne tout autour de lui, lui jetant des regards dénués d'émotion. Il ne le considère que comme un tas de pierres. Gérald sent sa fin proche.
Ferdinand ! Ferdinand ! Ferdinand !
Allons, mais comment donc ? Est-ce que c'est toi, Gérald ?
Ferdinand, tu es là !
Où voudrais-tu que j'aille ?
Je te croyais détruit. Non, pire, je te croyais fâché.
Fâché, moi ? Mais c'est toi qui nous boudes. Tu viens plus aux soirées.
Je ne vais plus nulle part. J'ai été saccagé.
Oh, mon pauvre Gérald. Nous voilà vraiment mal.
Tu crois pas si bien dire. Ferdinand, aide-moi.
Je veux bien, mais à quoi?
À appeler du renfort.
Là, mon vieux, c'est trop tard. Même moi qui suis classé monument historique, y a le monde dissimulé entre deux édifices. Qui veux-tu appeler?
Une délégation.
De fées, de corrigans, d'esprits, de léprocônes?
De tout ça à la fois.
Gérald n'est pas vraiment tout à fait à la page. Il n'avait pas suivi les dernières mutations.
Mais Gérald, tu es fou. C'est bien trop d'énergie, nous arrivons à peine encore à nous parler.
Justement, Ferdinand, je ne peux pas faire ça seul. Aide-moi pour cette fois.
Ferdinand le menhir sentit dans la supplique de son ami dolmen le ton désespéré des ultimes faveurs.
Allons, c'est entendu. Je ferai ça pour toi.
Et nos deux amis puisent, au plus profond des strates de la terre sous eux, les ondes magnétiques. Ferdinand amplifie un instant son signal, accumule comme il peut et contient tout un champ, puis dirige vers Gérald les ondes qui s'y engouffrent. Il y a un éclair noir qui recouvre la zone comme une membrane visqueuse, le sol a même tremblé. Le silence coule comme une chape de béton armée.
Mais laisse-moi donc passer!
J'ai ton pull dans ma bouche.
Place, place!
Ah, oh, c'est chaud là.
Sous la dalle de granit du dolmen affaissé, comme sorti d'une trappe, surgit quatre entités. Léprecône, fantôme, corrigan et une fée.
Mais qu'est-ce qu'on fiche ici? C'est quoi ce trou à...
J'espère que c'est une blague.
Quelqu'un nous a appelés?
« Vengez-moi !»
dit Gérald, avant de s'écrouler. Et ainsi se termine la vie du mégalithe. Demain, on le déplace, et puis on l'oubliera. Il ne gênera plus. Seul l'ami Ferdinand, coincé entre deux murs, à l'ombre des citernes, chante encore la complainte du dolmen perdu.
C'était l'heure des folks. Petit conte ligérien d'hier, revisité pour aujourd'hui. Écrit et raconté par Ivy, réalisation Cléo Kepri, pour Radio Prune.
And one evening coming home, says William to John, "No, can you throw a stone, or can you play at a ball of..." says John to William, I cannot throw a stone. Little can I play at the ball, but if you go, Dante and Mary Greenwoods, I'll try you a wrestling fall, a fall. I'll try you a wrestling fall. So they went, Dante and Mary Greenwoods, beneath the spreading bough. The little penknife fell out of William's coat, gave John his deadly wound, and gave John his deadly wound. Ah, now you take off your white holland shirt, and tear it fegore, and you will bind my deadly wounds, that they might bleed no more, more, that they might bleed no more. So he stained off his white holland shirt, and he's torn at Fagor, Fagor, and though he's bound his deadly wounds, are they bled 10 times more and more, are they bled 10 times more. But what shall I tell to your father, dear, this night when I go home? Tell him I'm away to a London school, and the good scholar I'll come home, home, the good scholar I'll come home. Ah, but what shall I tell to your sister, dear, this night when I go home? Tell her I'm away to a London school, and the good books I'll bring home, home, the good books I'll bring home. Ah, but what shall I tell to your sweetheart, dear, this night when I go home? Tell her I'm dead and in grave laid, and the grass is growing green, green, the grass is growing green. Ah, but what shall I tell to your stepmother, dear, this night when I go home? Tell her I'm dead and in grave laid, for she prayed I might never come home, home, she prayed I might never.